mais qu'elle trouve ce courage, et la voilà, Michou en classe, désemparée dans la villa trop grande pour elle. Les chambres possèdent leur visage de solitude qu'elles revêtent avant qu'on puisse s'en protéger. Maman s'y traîne, une âme en peine, et souffre de n'avoir personne à qui parler. Si elle pénètre dans la salle de jeu de Michou, dans le bureau de Jean, domaines étrangers, le refus que lui opposent les choses apparaît plus manifeste. Seule, au rez-de-chaussée, la salle à manger, la cuisine, demeurent des pièces familières, mais, au milieu de l'après-midi, en ordre depuis longtemps, elle présente l'aspect impitoyable des lieux qui n'ont plus besoin de la main humaine où le moindre changement scandaliserait. Les objets, indociles, échappent aux mains. Maman a peur, en y touchant, de les briser. Peur, non pas de cet objet-là ou de celui-ci, mais de tous, lui semble-t-il, de leur nature même d'objet. Peur de leur brillant, de leur beauté, dans le neuf de cette joie presque enfantine d'acquérir et de posséder qui, on ne sait jamais comment, devient peine et fatigue, qui pourrait devenir une horrible panique dans le cas d'un déménagement, si Jean, par exemple, se mariait. Des objets pour un rien se cassent, mais d'autres, plus décevants, que l'immobilité conserve, trompent les yeux, non les mains, et, sitôt qu'on les déplace, laisse apparaître leur usure. Il faudrait ne pas y penser. Lorsqu'on y pense, le froid de l'absence recouvre les rideaux, les cretonnes, et tout est plus vieux soudain. Malheureuse, sans raison d'être, maman bat en retraite. Elle va s'enfermer dans sa propre chambre où commence l'agonie. Située au premier étage, entre la chambre verte et blanche de Michou et le bureau de Jean, la chambre de maman semble ne pas appartenir à la maison. On la croirait construite en matériaux d'une autre espèce, d'un autre temps. Des vieilleries qui l'emplissent, on ne voit l'équivalent nulle part ailleurs dans la villa. Certaines d'entre elles ne sont pas sans valeur. L'armoire rustique normande, ou ce paravent avec des oiseaux maigres que maman prétend provenir de Port-Royal. Mais il y a, au mur, trop de reproductions de peintures de l'époque 1900, trop de lampes à pétrole, trop de vases qu'alourdissent, trop de fleurs en peluche et trop de bassinoires en cuivre. Il y a trop de motifs bleus et jaunes sur la tapisserie passée et trop de velours derrière le lit aux fenêtres. Cette chambre est un empire. Elle contient de quoi meubler une maison tout entière ou la seconde salle d'un magasin d'antiquités. L'agonie commence toujours par le souvenir de Georges, dont le visage sort de n'importe où, de la glace de l'armoire ou des rideaux. Tête ronde, faussement belle, sa vie fut celle d'un raté, avec ses moustaches noires taillées comme une pelouse et ses gros yeux de veau. Maman le regarde, d'abord sans rien dire, et il ne dit rien, lui non plus. Il se regarde ainsi longtemps. Il n'y a pas d'autre bruit dans la chambre que le tic-tac minuscule de la montre de maman sur la table de chevet, jusqu'à ce qu'elle parle. « Alors ?» dit-elle, et quelquefois elle ajoute « Mon pauvre Georges !» Il ne répond pas directement. Mais la plainte qui monte en elle, qu'elle ne tente pas de retenir, est tout de même une réponse. « Je suis fatiguée, Georges. Après tout, je ne suis plus jeune. On se demande pourquoi on en fait tant. Qu'est-ce que j'ai eu de la vie? Tu peux me le dire? Tu crois que j'ai été heureuse? Tu crois que j'ai eu la vie? Et maintenant, seule, les trois quarts du temps, à mon âge, personne pour s'occuper de moi. Mais c'est moi toujours qui dois m'occuper des autres. C'est normal cela? Je suis fatiguée, Georges. Je sais que ça ne pourra pas durer. Qu'est-ce qu'on m'a épargné, dit? Qu'est-ce que tu m'as épargné? Et Jean, toute sa vie, tremblait jour après jour parce que chaque jour, son fils risque sa vie. Non, ça ne durera pas. J'ai l'âge où, pour un rien, on peut tomber malade. Qui me soignerait? Mais je pourrais mourir, Georges, là, tout de suite, comme un chien. Son angoisse la contraint à se lever, à marcher. Elle tourne le dos au visage de Georges, qui se déplace en même temps qu'elle, qui, maintenant, apparaît sur le panneau supérieur de la porte. Elle l'observe un moment sans le reconnaître, comme si, déjà morte elle-même, dans l'au-delà, les visages n'étaient plus ce qu'ils sont sur la terre. Pourquoi, comment a-t-elle accepté de rester seule, sachant qu'une femme vieille et seule ne saurait penser qu'à sa mort ou au mal qu'elle a commis? Dans la glace de l'armoire, la vieille, toute seule qui la regarde, ce n'est plus elle, mais une chose épouvantable à contempler. Cela se termine toujours ainsi. Le chapeau, le manteau, les gants, le sac. Lorsqu'elle referme la porte de la villa, elle ne sait pas où elle choisit d'aller. Mais avant qu'elle ait atteint le pont, le but de sa promenade s'impose à elle, car elle ne va jamais ailleurs, lorsqu'elle est seule, que chez sa meilleure amie, Rose Mine, qui tient, rue des Deux Ponts, un magasin d'antiquités. Michou n'aime pas qu'on lui rappelle son âge. Il n'aime pas qu'on l'appelle un gosse et moins encore s'avouer qu'il en est un. 4 plages de cuir, 5 montagnes de sable, 6 colonnades de bois, tel fut le monde de l'enfant il y a des éternités. Plus tard, il sut que les plages servaient pour écrire, les colonnades pour donner de la lumière pendant les pannes d'électricité. Authentique, disait maman, authentique du XVIIe siècle. Il sut que les montagnes n'étaient pas en sable, mais en phoque, et que le couloir obscur, plein de trous de clarté, ses portes, ne bougeait pas sans cesse comme d'abord l'enfant l'avait cru au gré des lumières et des ombres. Non, Michou ne se rappelle pas volontiers le gamin qu'il était il y a 3 ou 4 ans, quand les nuages ressemblaient à des arbres, les arbres à des bonhommes et les bonhommes à des bêtes assoiffées de sang. La chambre de Michou est claire, bien qu'elle donne sur la cour. C'est à cause de la tapisserie crème et des meubles verts d'eau ou d'un hêtre presque blanc. Michou se sent à l'abri dans sa chambre, aussi longtemps du moins que les volets n'en sont pas fermés. Parce que la nuit, la chambre est autre. Contre le rêve, elle n'est plus un abri. De quoi servirait-il de crier au loup? Michou rougirait d'appeler maman au milieu de la nuit, comme lorsqu'il était un bébé. Durement, il se contient, il lutte contre sa peur. L'exemple de papa l'aide. Quand il sera lui-même un aviateur et que son avion tombera en flamme, car c'est ainsi qu'il finira dans un avion en flamme, il sait. Ne faudra-t-il pas qu'il supporte seul cette épreuve? S'il crie alors, qu'il entendra. Dans un des rêves de Michou, le rêve qu'il fait le plus souvent, chaque fois un peu différent dans les détails, il habite une ville assiégée. Enfant lui-même un écolier. Personne ne dit que la ville est assiégée. Bien au contraire, les grandes personnes le taisent. Mais Michou ne l'ignore pas, et l'un de ses camarades non plus, un garçon doué de pouvoirs étranges. Tous deux, ils décident de s'enfuir. Près des remparts de la ville, une femme assez belle, gentille, la mère de son compagnon, les emmène chez elle. Elle leur sert un breuvage noir à l'aspect répugnant et demande à Michou d'y plonger les mains. Aussitôt, de lents effleurements volettent sur ses mains, humides. Michou comprend que son camarade est un traître et l'ennemi dans les murs, que la ville n'est pas assiégée, mais au pouvoir occulte des chauves-souris. Et la femme, l'un de leurs agents zélés. Même la pensée d'une boulangerie près de l'école, où parfois ils cherchent refuge, ne le rassure plus. Parce que la femme louche. Michou se réveille en sueur et il mord son drap pour ne pas crier. Un jour, Michou a demandé à son père « Quand on veut une femme, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui dit « Viens avec moi » Jean n'a ri qu'à moitié, alors presque insolemment « Toi, c'est comme ça que tu as fait avec Irène ?» Et cette fois, Jean n'a pas ri du tout. Il est assez pénible déjà qu'un gosse dise « Irène » en parlant de sa mère qu'il n'a pas connue, pour ne pas la confondre peut-être avec maman. Mais comment, bien plus inquiétante, cette misogynie enfantine que rien ne semble désarmer. Maman ne s'inquiète pas. Elle connaît mieux Michou que Jean ne le connaît. Tout ce que Michou sait de sa mère, il le tient de maman, qui n'aimait pas Irène. Lorsqu'elle pense à Irène, elle s'étonne parfois de pouvoir tant haïr après 10 ans. Un sentiment qui ne ressemble à aucun autre. Immobile, tel il a pris naissance le jour de leur rencontre, tel il demeure. Il n'a ni diminué, ni cru. Mais comment expliquer cela ? Le séjour d'Irène à Melun a duré 14 mois. Maman fut mariée 29 ans. Dans son souvenir, les deux périodes s'équivalent. C'est parce qu'il y a 10 ans, j'étais une femme libre. Je ne pouvais plus supporter quelqu'un toujours sur mon dos. N'est-ce pas plutôt que la présence de Georges lui pesait jour après jour ? Minute par minute, celle d'Irène. Georges, il fallait qu'il fût bien ridicule ou vil pour que maman se rappelât son existence et en souffrît. La plupart du temps, il n'était qu'une ombre, un néant, opaque, entre elle et les choses. Un vide mouvant qu'elle ne tentait pas de pénétrer. Un de ces meubles trop familiers, sales ou vieux, dont elle eût aimé qu'on la délivrât, mais que, faute de pouvoir le remplacer, elle s'exerçait à ne pas voir. Irène était différente. Elle ne se laissait pas oublier. Irène offensait la raison, le goût. Par ses moindres paroles, elle offensait la vie. Quand elle ne parlait pas, c'était plus fort que soi. On se demandait pourquoi elle se taisait et ce qu'elle machinait dans sa tête. Elle était trop sûre d'elle et de la permanence de ceux qui l'entouraient. De la santé de Michou, qui pourtant, bébé, ne payait pas de mine, ou de l'amour de Jean, dont maman ne savait pas même s'il vivait encore. Elle trouvait tout naturel, les bontés de maman pour elle, ou simplement d'habiter une maison qui ne lui appartenait pas, qui ne lui appartiendrait jamais, puisque, Dieu fait bien ce qu'il fait, Jean n'avait pas eu le temps de l'épouser avant de partir. Une femme à qui tout était dû. Pensant à l'éducation qu'Irène eût voulu pour son fils, si elle était restée, au garçon impossible qu'elle eût fait de Michou, maman parfois frissonne. Mais l'absence de Jean, elle ne l'a pas supportée plus de 14 mois, alors que j'ai dû la souffrir 5 ans. À se rappeler le départ soudain d'Irène, cette fuite inespérée, maman se reproche d'avoir vu d'abord en Irène une adversaire à sa taille. Cet effort inutile, cette victoire trop aisée sont de nouveaux motifs pour haïr. Quand, la mettant plus bas que terre, nue comme un ver, là, devant moi, J'espérais lui montrer ainsi que je n'étais pas dupe de ses manigances. J'étais dupe, encore, toujours et toujours. Son silence n'était pas une force, ah non. Ce n'était pas la noble riposte d'une femme outragée. Tout au plus, la pénible indifférence de la petite garce qui ne comprend même pas ce qu'on lui dit. Il semble à maman qu'Irène, où qu'elle soit, dans une autre famille, jouant les pique-assiettes, mariée, morte, n'en finit pas de rire en se rappelant le mal qu'une vieille femme s'est donné pour la combattre, comme si en vérité elle eût été un être humain, normal, doué d'un cœur et capable d'aimer. Lorsque maman pense à cela et que Michou est près d'elle, le nez sur un livre, ou rêvasson, à faire semblant de ressasser ses leçons pour le lendemain, elle dit dans le silence, d'une voix que la fureur démantèle, « Tu étais un bébé, mon chéri, adorable. Elle ne te voyait même pas, tu la gênais. Lorsqu'elle voulait sortir, « Mère, occupez-vous de lui, et je m'occupais de toi. Je me suis toujours occupée de toi, mon loup. De ton papa d'abord, de toi ensuite. Je me suis toujours occupée des autres. Tu peux remercier Dieu, Michou, d'avoir eu maman. Il faut remercier Dieu, tu m'entends ? De t'avoir arraché à cette femme. » Ou bien, allant chercher la boîte, un carton à chapeau, où elle conserve les photos de famille, elle demande à l'enfant de les regarder avec elle. « Grand-père, dans son jardin. Ton papa, il avait ton âge. Ton papa encore, le jour qu'il a piloté son premier avion. Moi, il y a bien longtemps. On disait que j'étais jolie, tu vois. » Elle tient, cachée par d'autres, depuis qu'elle a ouvert la boîte, une photographie, la seule d'Irène qu'elle ait gardée. Elle la découvre aux yeux de Michou, à son heure, lorsqu'elle croit que l'enfant l'a oubliée ou qu'il l'espère détruite. Avidement, elle épie le visage enflammé, guette au fond des yeux noirs l'apparition de la lueur craintive. Jouit du recul de l'enfant devant l'unique vision d'Irène qu'il connaîtra. « Ça, déclare-t-elle, on ne peut pas dire. Ça, déclare-t-elle, on ne peut pas dire qu'elle était bien belle, non. » Elle se l'avoue. On ne retrouve sur la photo ni le grain si fin de la peau, splendeur heureuse de la chevelure. Irène ne louchait pas. Sur la photo, elle louche. « Maman, dit Michou, je ne veux pas la voir. » Et maman alors, « Voyons, Michou, Dieu sait que je ne la défends pas, mais c'était ta mère.